RFI, 7h à Paris, 14h à Pékin, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
La Chine se réaffirme sur la scène internationale.
Et s'exprime sur des dossiers diplomatiques brûlants. Pékin met en garde contre un retour de la loi de la jungle dans les relations internationales. On retrouve notre correspondante sur place en début de journal. La Chine qui subit toujours les taxes douanières des États-Unis. Washington a toutefois lâché du lest envers ses voisins mexicains et canadiens. Dans ce journal également, ces violents combats à Khartoum, au Soudan, entre l'armée et les paramilitaires des FSR. Les scientifiques du monde entier se mobilise aujourd'hui face aux coupes sans précédent de l'administration américaine, avec des licenciements massifs de chercheurs ces dernières semaines ou encore des coupes dans des programmes scientifiques. Et puis en fin de journal, un aperçu des Filles du Nil, un documentaire sur une troupe féminine de théâtre à l'assaut des clichés sexistes en Égypte.
Ukraine, Gaza, droits de douane, la Chine réaffirme sa position sur des questions mondiales clés.
Mais des milliers de délégués se retrouvent à Pékin dans le cadre des deux sessions, l'événement politique annuel. Et en marge de cela, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est exprimé sur ces dossiers brûlants. On retrouve à Pékin notre correspondante, Cléa Broadhurst. Cléa, que faut-il retenir de cette conférence de Wang Yi ?
Eh bien, Wang Yi a affirmé que malgré un contexte international chaotique, la Chine reste un pilier de stabilité et un acteur clé du multilatéralisme. Il veut montrer ici que la Chine est un réel contrepoids stratégique à l'influence des États-Unis. D'ailleurs, le MAE a dénoncé les taxes américaines qu'il qualifie d'injustifiées et il met en garde contre un retour à la loi de la jungle dans les relations internationales. Il a averti que la Chine réagirait fermement face à cette approche diplomatique qu'il qualifie de deux visages. Il a aussi rejeté les accusations américaines sur le fentanyl, affirmant qu'il s'agit là d'un problème interne aux États-Unis.
Et il a également réaffirmé les liens forts avec la Russie.
En effet, il évoque une relation solide avec Moscou, la décrivant comme une force stabilisatrice dans les affaires mondiales. Sur la guerre en Ukraine, il a réitéré le rôle de la Chine comme possible médiateur, appelant à des négociations de paix. Il a aussi plaidé pour un cessez-le-feu durable à Gaza, soutenant l'initiative égyptienne et réaffirmant le droit des Palestiniens à leur propre territoire. Wang Yi a insisté sur le poids des pays du Sud dans l'économie mondiale et leur droit à une plus grande influence. Il a d'ailleurs présenté les BRICS comme un moteur essentiel de croissance. Et il a réaffirmé le rôle clé de la Chine en Afrique avec plus de 1000 projets de développement en cours. Et enfin, concernant Taïwan, il a averti que toute velléité d'indépendance était une menace pour la stabilité régionale. Il a déclaré que soutenir l'île, c'était jouer avec le feu et que Taïwan n'avait jamais été un pays par le passé et ne le sera jamais à l'avenir.
Et Taïwan qui dit avoir détecté 11 ballons chinois près de l'île. Il n'est pas rare que des ballons chinois soient repérés autour de Taïwan, mais le nombre d'appareils détectés est le plus élevé depuis août 2023. Merci Cléa Broadhurst en direct de Pékin pour RFI. La Chine, on l'a vu, promet de riposter aux droits de douane américains. Les autres pays visés par ces taxes, eux, profitent d'une accalmie. Les États-Unis suspendent l'essentiel de ces taxes contre ses voisins mexicains et canadiens pour au moins 30 jours, Guillaume Nodin.
Comme il l'avait fait début février, Donald Trump a une nouvelle fois reculé. Les 25% de droits de douane supplémentaires sont levés sur tous les produits qui rentrent dans le cadre de l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique que Donald Trump avait lui-même négocié et signé lors de son premier mandat. Un traitement égal pour les deux pays, malgré des relations différentes, un contact direct avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, quand les rapports sont plus conflictuels et de manière largement publique avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, régulièrement qualifié par Donald Trump de gouverneur de ce qu'il aimerait voir devenir le 51e État américain. Mais le répit est de courte durée. Le président américain affirme que les deux prochaines étapes sont maintenues, des droits sur les importations d'aluminium et d'acier à compter de mercredi prochain et des droits réciproques à compter du 2 avril prochain sur les produits de tous les pays à hauteur de ce que ces pays appliquent eux-mêmes aux produits américains. Ces va-et-vient successifs créent de l'incertitude, exactement ce que n'aiment pas les investisseurs. L'annonce de ce recul ne les a pas convaincus puisque la Bourse de New York a une nouvelle fois fini la journée dans le rouge. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et après le recul de Donald Trump, le Canada a suspendu l'essentiel de ses mesures de représailles. L'administration Trump prête à reprendre le dialogue avec l'Ukraine. Elle va organiser des discussions en Arabie Saoudite mardi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera l'émissaire américain Steve Witkoff.
Les Européens, eux, se préparent à se débrouiller sans les États-Unis.
Les 27 de l'Union Européenne ont validé hier un plan de réarmement. C'était lors d'un sommet extraordinaire à Bruxelles que vous avez suivi, Anastasia Becchio. Les Européens, Anastasia, se mettent donc d'accord pour muscler leur défense.
Oui, elles affichent leur détermination à prendre en main leur sécurité alors que l'allié américain est devenu imprévisible. Cela passe dans l'immédiat par un soutien réitéré à l'Ukraine. Après avoir accueilli chaleureusement Volodymyr Zelensky, les dirigeants européens ont promis de continuer à envoyer de l'aide. Une enveloppe de plus de 30 milliards d'euros est prévue pour cette année. Dans leur déclaration, les Européens soulignent qu'il ne peut y avoir aucune négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Ce texte a été adopté à 26, la Hongrie continuant à faire cavalier seul sur cette question. Viktor Orban s'est en revanche joint au feu vert donné à un plan de la Commission pour renforcer la défense européenne. Il ouvre la possibilité aux pays qui souhaitent s'armer de s'endetter au-delà de la limite de 3%. La Commission va également leur prêter 150 milliards d'euros. Les Européens ont identifié les domaines dans lesquels il faut investir en priorité, système de défense aérienne, artillerie, drones ou encore renseignements. Les 27 seront incités à acheter du matériel en commun auprès d'entreprises européennes. Cette inquiétude face au désengagement américain dépasse largement les frontières de l'Union. Plusieurs autres pays, le Royaume-Uni en tête, mais aussi la Norvège, l'Islande ou la Turquie, suivent ces avancées de près. Le président du Conseil, Antonio Costa, doit leur présenter ce matin les résultats de ce sommet extraordinaire.
Anastasia Bécu, envoyée spéciale de RFI à Bruxelles. L'Ukraine, frappée une nouvelle fois dans la nuit par la Russie, le ministre ukrainien de l'énergie déplore des bombardements massifs contre les infrastructures énergétiques.
Et dans quelques minutes, le grand invité international d'Arnaud Pontus, David Sfar, ambassadeur représentant permanent de la France auprès de l'OTAN. 8h07 à Khartoum, le Soudan dépose une plainte contre les Émirats Arabes Unis.
Plainte devant la Cour internationale de justice pour complicité de génocide. Khartoum accuse le pays de soutenir les paramilitaires des FSR, accusés eux-mêmes de commettre des actes de génocide. Les FSR qui reculent peu à peu face à l'armée soudanaise à Khartoum, mais les combats sont violents. Hier, Ouda Ibrahim, des bombardements ont fait plusieurs morts, dont des enfants.
C'est une école, Al-Balak, qui a été visée hier, juste quelques minutes avant l'ouverture des classes. Bilan, un enfant mort et 6 autres blessés. Une femme médecin travaillant dans l'hôpital voisin a également été touchée. Ces violents bombardements ont aussi visé plusieurs autres quartiers de Khartoum et d'Omdurman, alors que l'armée continue sa progression vers le centre de la ville où se trouve le palais présidentiel et le siège du gouvernement fédéral. Mardi, l'armée a pris le contrôle du célèbre pont Al-Manshiya jusque-là aux mains des FSR. Quant à la situation à Al-Fasher, au Darfour du Nord, la ville encerclée depuis plusieurs mois par les forces de soutien rapide continue, tout comme les trois camps qui l'entourent, Abu Shouk, Zamzam et As-Salam, à subir les bombardements des FSR. Hier, le comité de résistance d'Abu Shouk a annoncé la mort de 6 personnes suite aux nouveaux bombardements. Ces camps de déplacés abritent plus de 2 millions de personnes qui souffrent d'une situation humaine désastreuse et sont confrontées à l'insécurité alimentaire. Depuis le début de la semaine, l'armée a annoncé également la reprise de plusieurs villes à Sennar et d'autres au Nil Bleu, près de la frontière avec le Soudan du Sud.
Ouda Ibrahim. En Corée du Sud, Yoon Suk-yeol vient de sortir de prison. Un tribunal de Séoul a annulé le mandat d'arrêt contre le président, inculpé pour avoir tenté d'imposer la loi martiale. Il accède ainsi un recours déposé par ses avocats.
Les laboratoires désertés aujourd'hui dans de nombreuses villes du monde. La communauté scientifique appelle à des manifestations massives.
Stand for Science, debout pour les sciences, c'est le nom de cette mobilisation lancée aux États-Unis pour protester contre les coupes massives de l'administration Trump, qui vise notamment les sciences, la recherche. Stéphanie Schuller, cette mobilisation devrait être largement suivie.
La météorologue Bernadette Woods-Plackey en est persuadée. Les marches debout pour les sciences mobiliseront les Américains.
C'est probablement la première de beaucoup d'autres marches que les citoyens rejoindront pour apporter leur soutien aux scientifiques. Parce que quand on se débarrasse de nos chercheurs extraordinaires, on affaiblit la capacité à faire avancer notre société.
Comme 2500 chercheurs de l'Union américaine des scientifiques préoccupés, Juan Declet Barreto a signé une lettre ouverte pour que les élus du Congrès empêchent la destruction des agences fédérales scientifiques.
C'est le Congrès qui avait adopté des lois pour créer des agences fédérales comme l'EPA ou le Service national de météorologie. Le Congrès qui décide de leur fonctionnement et de leur budget. Et aucun président n'a le pouvoir de les démanteler.
Mais le temps presse. De nombreux chercheurs tentent d'archiver des données scientifiques avant qu'elles ne soient retirées par l'administration Trump. Parmi eux, Lourdes Vera.
Notre droit au savoir constitue la base de notre engagement citoyen et de notre participation démocratique. Quand l'administration coupe sciemment l'accès aux informations scientifiques et nous enlèvent donc notre droit au savoir. Cela équivaut au démantèlement de la démocratie.
La communauté scientifique internationale organise également des marches debout pour les sciences dans plusieurs villes à travers le monde, en solidarité avec les collègues américains.
Stéphanie Schuller.
Et puis on termine, Marion, avec ce documentaire en Égypte qui suit une troupe de comédiennes.
Les filles du Nil suivent ces jeunes filles qui cassent les codes en jouant des pièces de théâtre dans la rue, et c'est déjà sacrément courageux dans ce pays où la société reste patriarcale. Ce documentaire a reçu le prix du meilleur documentaire l'an dernier à Cannes et il est sorti dans les salles en France. Elisabeth Le Quéré.
Elles sont à peine sorties de l'enfance, mais elles ont osé l'impensable. Dans un village traditionnel au bord du Nil, Majda, Heidi, Monica et leurs amis dénoncent en pleine rue les mariages précoces et défendent l'égalité des sexes. Armées de leur humour et de leur courage, elles affrontent un public médusé et une société profondément patriarcale. Ayman El Amir.
Les filles de la troupe de Panorama Barsha, elles sont descendues dans la rue pour faire des spectacles de danse, de chant, interactifs avec le public, pour sensibiliser sur des sujets comme les violences conjugales et l'excision.
Nada Riad et Ayman El Amir ont suivi la troupe pendant 4 ans. Leur caméra observe sans juger, montrant comment ces jeunes femmes naviguent entre aspirations personnelles et poids des traditions. C'est toute la force de ce film nuancé qui, malgré sa lucidité, ne renonce pas à l'optimisme, captant cette révolution silencieuse en marche et l'étincelle de la révolte qui brille déjà dans les yeux de la nouvelle génération.
Les filles du Nil de Nada Riad et Ayman El Amir, en ce moment dans les salles en France.
Et c'était Marion Kazanov pour le journal. Merci beaucoup. Et tout de suite les sports. Antoine Grenier en football. Lyon prend une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa.
Les Lyonnais vainqueurs du Steaua Bucarest 3-1, un Noël porté par son gardien Luca Peri, auteur de plusieurs parades décisives et qui a parachevé son succès avec 2 buts coup sur coup de Malik Fofana au 86e et 89e. Le Belge, rentré en jeu, admet que son équipe n'a peut-être quand même pas fait son meilleur match de la saison.
Je suis toujours motivé et j'essaie toujours d'aider l'équipe et aujourd'hui j'ai marqué 2 buts et on a une bonne chance pour se qualifier au next round. Donc ça fait plaisir. Je pense pas notre meilleur match, mais je pense qu'on a fait un bon match ici et un bon résultat, donc on doit être content.
Malik Fofana chez nos confrères de Canal+, une soirée de Ligue Europa qui a vu la victoire des Norvégiens de Bodø/Glimt sur l'Olympiakos 3-0. Les Glasgow Rangers allaient s'imposer en Turquie 3-1 sur Fenerbahçe. Bonne soirée pour les clubs italiens et même romains avec le succès de la Lazio 2-1 sur le Victoria Pilsen et de l'AS Rome sur l'Athletic Bilbao. Moins bonne soirée en revanche pour les équipes anglaises avec le nul de Manchester United 1-1 face à la Real Sociedad et la défaite de Tottenham 1-0 sur la pelouse de l'AZ Alkmaar. Enfin, toujours côté néerlandais, l'Ajax Amsterdam s'est incliné 2-1 face à l'Eintracht Francfort.
En France, ouverture de la 25e journée de Ligue 1 ce vendredi, Toulouse accueille l'AS Monaco.
Des monégasques en lutte pour le podium, mais en difficulté dès qu'il s'agit de jouer à l'extérieur. De quoi donner une chance à Toulouse, 8e, mais qui devra se méfier du Danois Mika Bjerret, auteur de 10 buts en championnat depuis son arrivée cet hiver, dont 3 triplés inscrits. Djibril Sidibé, ancien monégasque, fait confiance au collectif toulousain pour faire déjouer l'attaquant.
Le point positif, c'est que d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'il a mis ses triplés qu'à Monaco. Donc on espère que ici il va rester au frais. Donc non, après c'est le type d'attaquant qui est toujours à l'affût d'un ballon qui traîne. Et puis voilà, c'est pas anodin s'il met 3 buts. Donc ça démontre toute sa qualité. Après, je le connais pas personnellement, mais je pense que notre force à nous, c'est le collectif. Donc voilà, on est bien en ce moment et puis on va essayer de le contenir.
Toulouse-Monaco, coup d'envoi 19h45, temps universel.
Et puis on termine avec le basket et le champion NBA en titre qui maintient la cadence.
Les Celtics de Boston se sont imposés cette nuit 125-103 sur les Sixers de Philadelphie, de quoi renforcer leur 2e place de la conférence Est. À l'Ouest, 3e victoire de suite pour Golden State en course pour une qualification directe pour les playoffs grâce aux 40 points de Stephen Curry. Les Warriors s'imposent 121-119 sur Brooklyn.
Merci Antoine Grenier. Bonjour Stéphane Jeunesse.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie, on prend un peu d'avance ce matin, à la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, puisqu'on va parler ensemble d'un sujet très important dans l'indépendance et l'émancipation des femmes, à savoir la détention d'un compte bancaire.
Eh oui Julien, rien qu'en France, cela fera juste 60 ans en juillet que les femmes ont obtenu le droit de détenir un compte en banque à leur nom. Dans d'autres pays, il faut parfois toujours l'autorisation du mari pour faire cette démarche. Bref, toutes les femmes de tous les pays ne sont pas logées à la même enseigne sur ce sujet.
Oui, car gérer son propre argent en toute autonomie, c'est un puissant levier d'émancipation tout de même.
Et pourtant, d'après le Fonds monétaire international, à l'échelle du globe, plus d'un milliard de femmes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services financiers formels. Seulement 2/3 des femmes possèdent un compte bancaire contre pratiquement 4 hommes sur 5 aujourd'hui. Plusieurs régions sont plus concernées que d'autres, comme par exemple en Afrique subsaharienne où seulement 37% des femmes ont un compte en banque contre un homme sur 2. Une tendance qui reflète des obstacles sociaux, économiques, culturels et technologiques auxquels les femmes continuent de se heurter dans l'accès aux services financiers.
Ce qui a de multiples conséquences.
Avec la première d'entre elles, la dépendance aux conjoints ou aux parents. Sans compte personnel, impossible de tout simplement gérer son budget, ses revenus, sa consommation, son épargne ou même contracter un crédit. Difficile aussi de se protéger financièrement en cas de séparation, de divorce ou de perte d'emploi. Plusieurs explications à cette situation. D'abord, l'écart de rémunération entre femmes et hommes qui joue sur la capacité d'épargne et d'investissement. Concrètement, Julien, moins vous gagnez, moins vous avez de chances d'obtenir un prêt. Ensuite, des freins culturels existent dans certains pays pour l'accès à ces services bancaires.
Et donc, comment arriver à changer les choses ?
Alors oui, vous avez raison. Une fois qu'on a fait le diagnostic, comment faire bouger les lignes ? Comme par exemple l'accès à l'éducation financière, plusieurs structures et entreprises se mobilisent sur le sujet, comme par exemple le géant français L'Oréal qui a signé une charte l'été dernier pour que les femmes aient plus facilement accès à ce type de formation et d'apprentissage dès le plus jeune âge. Encourager l'entrepreneuriat féminin également avec des aides et des financements dédiés. On peut aussi noter la promotion de l'égalité salariale donc et lutter contre toute forme de discrimination. Bref, Julien, pour que les femmes reprennent ou prennent, c'est selon le pouvoir de l'argent.
Stéphane Jeunesse, pour Aujourd'hui l'économie, merci beaucoup. 7h17, à Paris, le grand invité international de RFI Matin. À votre micro, Arnaud Pontus, l'ambassadeur représentant permanent de la France à l'OTAN.
Bonjour David Sfar.
Bonjour.
Et bienvenue sur RFI. Les 27 chefs d'État et de gouvernement européens s'engagent à renforcer leur défense. En sommet exceptionnel à Bruxelles hier soir, ils ont donné leur feu vert au plan Réarmer l'Europe. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
C'est une très bonne nouvelle. C'est le produit de la situation très difficile dans laquelle nous sommes, mais c'est quelque chose que la France souhaitait depuis longtemps, pour laquelle elle a plaidé. Il est assez naturel que, face à l'aggravation du contexte international, de la guerre en Ukraine, les Européens décident de consacrer un peu plus de leurs ressources qui sont importantes. Et je pense qu'il faut le mentionner parce que il n'y a pas de misérabilisme à avoir. Nous avons des ressources importantes, mais il faut en consacrer une plus grande part à notre défense.
Là, on parle de mobiliser 800 milliards d'euros, ce qui semble absolument colossal.
Oui, sur plusieurs années. Ensuite, si vous raisonnez comme on le fait, de manière d'ailleurs un peu schématique en termes de pourcentage du PIB, les Européens dépensent même pas encore tout à fait 2% de leur PIB pour la défense. Pendant la guerre froide, on devait dépenser en moyenne 3,5%. Si on rentre dans une situation qui est probablement la plus préoccupante qu'on ait connue depuis la fin de la guerre froide, il n'est pas absurde d'augmenter un peu ce pourcentage pour arriver.
Il n'est pas absurde de pousser et d'arriver peut-être au même niveau. C'est 3,5%, c'est le chiffrage qu'a fait le président de la République, le président Macron, 3,5% de la richesse nationale.
Voilà. Ouais. Ensuite, il faut s'assurer que derrière ces 3,5%, il y a des vraies capacités. C'est un peu le risque. C'est bien d'avoir des cibles budgétaires, monétaires. Ouais. Et il faut s'assurer qu'on en a pour notre argent, si j'ose dire. Et donc c'est un vrai défi industriel et opérationnel, pour que chaque euro se traduise par une capacité renforcée à se battre et donc par une capacité de dissuasion renforcée.
Ouais, on va y venir dans un instant, mais si les 27 se mettent à parler défense et s'accordent si rapidement alors que le sujet est sur la table depuis longtemps, c'est parce que les Américains se détournent de l'Europe, c'est parce que Donald Trump se rapproche de la Russie. Alors est-ce qu'il faut dire merci Donald ?
Il est un peu regrettable qu'il ait fallu des développements de ce type pour vraiment provoquer le sursaut, la rupture, le basculement. Je pense que tout ça est là, maintenant. Et comme je le disais, nous, on plaide pour ça depuis longtemps. Donc maintenant, regardons devant nous, félicitons-nous de ce que ce mouvement est engagé. Et je pense que la priorité maintenant, c'est d'aller le plus vite possible.
Bon, alors que les 27 étaient en train de dîner à Bruxelles, à Washington, le président américain a une nouvelle fois remis en cause l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN. Je vais le citer. Il reproche aux alliés de ne pas assez dépenser pour leur défense et il a dit « S'ils ne paient pas, je ne vais pas les défendre ». Bon, David Svar, on va arrêter de tourner autour du pot. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fin de l'OTAN ? Que le président américain dit « Bon, ben, ça suffit, c'est terminé, ce truc-là ne m'intéresse plus ».
En tout cas, il fait bien dans sa manière un lien entre un principe qui devrait être un principe intangible de solidarité, qui est consacré par l'article 5, et puis les dépenses.
L'article 5, c'est l'article d'assistance mutuelle. Si on attaque mon allié, je te défends avec toi et avec les autres.
Exactement, on considère que c'est comme si on était nous-mêmes attaqués et on en tire les conséquences. Il insère là-dedans une logique transactionnelle qui est de conditionner l'assistance à l'argent qu'on dépensera. Alors, comme on vient de le dire, on est déterminé collectivement à dépenser plus et à faire plus. Et donc peut-être que cela satisfera le président américain, mais il est quand même extrêmement troublant d'avoir une logique conditionnelle. Mmh. Nous avons aussi au sein de l'Union européenne un article qui assure entre les membres, les États membres de l'Union européenne une solidarité et il n'est pas question de la conditionner à quoi que ce soit, ça doit être un principe intangible.
Oui, donc là il est en train de tordre les règles et de tordre le traité.
Pour le moins.
Pour le moins. Dans cette même déclaration, il met aussi en doute l'engagement réciproque des alliés européens. Si les États-Unis avaient un problème et qu'on appelait la France ou d'autres pays en disant « on a un problème », vous pensez qu'ils viendraient nous aider comme ils sont censés le faire ? Je n'en suis pas sûr. En tant que représentant de la France à l'OTAN, qu'est-ce que vous pouvez répondre ?
Je peux répondre. D'ailleurs, le président a réagi hier dans sa conférence de presse à l'issue du Conseil européen. Je peux répondre que... dans tout le respect et d'ailleurs l'amitié que nous avons pour les Américains, nous prenons nos alliances au sérieux. Je crois que ce qui définit le mieux la position de la France à l'OTAN, qui est une position singulière, c'est que nous considérons comme alliés, mais pas alignés. Donc nous avons notre liberté de parole, notre liberté de penser, nous sommes capables de dire oui, de dire non, mais nous sommes alliés. Et nous prenons très au sérieux nos responsabilités, à commencer par celle de l'article 5.
Donc ça veut dire que quoi qu'il advienne, si les États-Unis étaient attaqués, bien évidemment... la France et les autres pays de l'OTAN lui viendraient en aide.
Nous l'avons déjà fait, et notamment suite aux attentats
du 11 septembre.
Seule invocation d'ailleurs de l'article 5, mais nous avons aussi été en Afghanistan. Encore une fois, nous prenons nos alliances au sérieux et nous avons intérêt à rester dans un monde où les Occidentaux, et en tout cas les Européens, prennent leurs engagements au sérieux.
Mais David Svar, est-ce que ça veut dire derrière tout ça, derrière ces déclarations, qui ne sont pas les premières, qu'il y a bien un désengagement américain en cours ?
Il faut voir, il y a clairement une logique transactionnelle, une forme de chantage. Pour l'instant, moi en tout cas à l'OTAN, je n'ai aucune indication précise.
Vous n'avez pas un collègue américain qui vous dit « on s'en va ».
Non.
Non. Non. Ça n'est pas dit si clairement, mais il y a les faits, il y a ces paroles de Trump, il y a Trump qui parle à Poutine, et comme Poutine d'ailleurs, qui s'en prend à des alliés, le Canada, le Danemark, via le Groenland. Il y a le ministre américain de la Défense qui dit « oh ben on va pas rester éternellement en Europe ». Ça fait beaucoup de facteurs qui nous indiquent que les États-Unis sont en train de se désengager.
Vous avez raison, il faut peut-être distinguer les choses qui sont claires de celles qui le sont moins. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a une volonté américaine de discuter, et déjà réaliser, de discuter directement avec la Russie, de revenir sur un certain nombre de principes que nous avions agréés entre alliés encore récemment au sommet de Washington en juillet dernier. Ça, c'est une réalité. Et qui est d'ailleurs à l'origine, je pense, de beaucoup des évolutions de nos partenaires. Il y en a une autre qui est de demander aux Européens de dépenser plus d'argent. Et à vrai dire, là-dessus, on peut se rejoindre. Parce que c'est quelque chose que nous avons besoin de faire et que nous aurions besoin de faire indépendamment même des Américains.
Et c'est peut-être ce qui est en train de se faire, donc.
C'est, je pense, absolument ce qui est en train de se faire. Et c'est la bonne nouvelle dans les mauvaises nouvelles du moment. Et juste à ce propos, je voudrais pointer les propos très intéressants du prochain chancelier allemand.
Monsieur Merz.
Et la troisième chose qui n'est pas encore claire, sur laquelle il y a les déclarations du président Trump d'hier, il y en a d'autres, à vrai dire, récentes, d'autres responsables américains qui vont dans un autre sens, c'est la question du désengagement américain, du théâtre européen, de la réduction de leur présence en Europe, ou de leur distanciation, disons, par rapport à l'OTAN. Ça n'est pas clair.
Ça n'est pas acté. Vous qui vivez, si je puis dire, dans ce milieu spécial qu'est l'OTAN depuis 6 mois, l'OTAN sans les États-Unis, ça vous semble possible, envisageable? Est-ce que ça marcherait, tout bêtement?
Vous savez, l'OTAN, c'est des plans. Si on regarde qu'est-ce que fait l'OTAN d'utile pour nous, pour les alliés, ça fait des plans militaires.
Des plans stratégiques.
Ouais. Pour se préparer à une guerre d'une manière suffisamment crédible pour que cette guerre n'ait pas lieu. Et on déduit de ces plans des objectifs de capacité qu'il faut développer et puis des procédures pour assurer que les armées européennes savent travailler entre elles, les matériels et les hommes. C'est ça l'OTAN. Cette forme de langage commun, ça va rester dans tous les cas. Et c'est très important pour les Européens, au moment où ils renforcent leurs propres efforts de défense, de continuer à parler ce langage qu'on a appris dans le cadre de l'OTAN, qui est un peu la glue entre nos armées. Ça va rester. Dans tous les cas, et c'est très précieux, et donc les efforts que l'Union européenne s'apprête à faire doivent être le plus étroitement liés à l'OTAN et aux procédures de l'OTAN, et de ce point de vue-là, les deux organisations travaillent mieux ensemble qu'elles ne l'ont jamais fait. Ensuite, et encore une fois, même si à ce stade, au-delà des déclarations du président Trump, on n'a pas d'indication concrète en ce sens, s'il y a une diminution ou une évolution de la posture américaine, les Européens peuvent parfaitement grossir, prendre beaucoup plus de place dans l'OTAN. Nous plaidons depuis des années pour un pilier européen dans l'OTAN. Ça n'avait jusqu'à tout récemment pas suscité un énorme intérêt de nos partenaires européens pour qui l'OTAN était intéressante dans la mesure où il y avait un seul pilier dedans qui était américain.
Américain, et le parapluie américain.
Mais je peux vous dire que c'est en train de changer.
Ça change. Mais il y a 100 000 hommes, si on parle de façon très concrète, il nous reste à peine une minute, il y a 100 000 soldats américains sur le continent européen. Est-ce que, de façon rapide et opérationnelle, les Européens sont capables de mobiliser, d'engager, de positionner 100 000 hommes?
De façon rapide, probablement pas. Cela dit, sur le papier, les armées européennes sont tout à fait nombreuses, bien équipées. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement le plus vite possible d'être en mesure de monter en puissance. On ne maîtrise pas complètement la variable américaine, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, on doit pouvoir, nous, être capable de prendre des décisions très radicales.
On doit être capable de prendre le relais.
Exactement. En fait. C'est ce qu'on est en train de décider.
Ouais, 100 000 hommes, évidemment, problème de recrutement. C'est par exemple que l'armée française a du mal à attirer les meilleurs et à les retenir.
Il y a un problème de recrutement qui d'ailleurs existe dans toutes les armées.
Dans toutes les armées, oui, c'est ça n'est pas une spécificité française.
Je pense que notre défi immédiat, plus que d'ajouter 100 000 hommes à très court terme, c'est de faire parfaitement fonctionner ensemble les différentes armées européennes. Encore une fois, c'est assurer l'interaction, l'interopérabilité, l'efficacité d'armées qui aujourd'hui sont tenues unies par beaucoup de matériel américain.
David Svar, pour conclure d'un mot, puisqu'il nous reste 10 secondes, est-ce que vous êtes malgré tout dans ce brouhaha optimiste?
Je le suis malgré tout. D'abord, ça va avec mon job. Et ensuite, la relation franco-allemande, la relation franco-britannique, le sursaut européen, ça, c'est vraiment des motifs d'optimisme.
Merci à vous, David Svar, d'être venu ce matin sur RFI.
Priorité santé, Caroline Paré.
Aujourd'hui, pour notre dernière émission au Sénégal, en Casamance, nous nous rendons à l'hôpital régional de Ziguinchor pour comprendre avec les équipes les enjeux liés à l'accès à l'oxygène médical pour les insuffisances respiratoires, les nouveau-nés ou la réanimation. L'oxygène médical, un médicament essentiel selon l'OMS.
Priorité santé
avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Diarra Ndiaye attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
En Afrique subsaharienne, près de 600 millions de personnes vivent encore sans accès à l'électricité. Une situation qui freine le développement économique et complique l'accès aux services de base. Alors comment réduire ce fossé en impliquant les femmes?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Comment se reconstruire lorsqu'on a été victime d'agression sexuelle par une personne représentant l'Église catholique ? Pour la première fois, une journée mémorielle était organisée à Paris entre jésuites de la Compagnie de Jésus et victimes, un partage d'émotions et de récits qui peuvent aider à la libération de la parole d'autres victimes.
Religion du monde, avec Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.